Prologue. Le vent siffle sur les plateaux volcaniques désolés. Des grêlons et des particules de lave sont projetés sur les badauds, derrière la rubalise et sur l'équipe qui travaille dans la fosse. Je me poste devant quelques touristes étrangers venus pour le cratère et qui préfèrent désormais se tourner pour voir ce qu'il reste d'elle. Ses côtes apparaissent à travers son chemisier troué. Des lambeaux de textile gris et noir adhèrent à sa peau. Son corps rabougri baigne dans une eau de marécage gelée, mêlée de terreau noir. J'essaie d'apercevoir son visage quand un technicien d'identification criminelle lui soulève délicatement la tête. Mais elle est encore enfermée dans un plastique recouvert d'une fine couche de terre impénétrable. Toutefois, au moment où le technicien sort de la cavité, le vent et la neige s'abattent sur lui et soufflent la terre, révélant ce qui se cache sous le plastique. Je dois mordre le col de ma veste de pluie pour m'empêcher de rire. Le visage a disparu. Cheveux et peau ont dégouliné en une bouillie sombre au fond du sac. Et c'est parti, me dis-je dans un murmure, sentant le chatouiller des plumes juste sous ma peau. J'ai hâte. Première partie. Pieux mensonge. Chapitre 1. Oh punaise, ça va bientôt bouillonner dans cette marmite.
L'instructeur de l'agence pour l'emploi se penche vers la cire en fusion, consulte le thermomètre.
Vous vous êtes mis d'accord sur la couleur de vos bougies ?
Aucun de nous ne répond. Nous restons plantés sur nos tabourets en bois, autour d'une plaque de cuisson portable posée par terre au milieu de la pièce, dans les sous-sols d'un bâtiment commercial d'Auglandsmyre, à la sortie du centre-ville de Stavanger. Nous sommes 8 au total, répartis en 3 groupes, pour ce stage obligatoire de réadaptation professionnelle subventionné par NAV.
Une astuce, si vous voulez faire des grandes bougies plus masculines, prenez une boîte de Pringles vide.
L'instructeur est svelte, brun, âgé d'une petite trentaine d'années. Le pas fervent, il va d'un poste à l'autre avec des conseils à l'appel. Il saisit une spatule, l'enfonce dans la masse molle.
Maintenant que vous vous apprêtez à remplir vos moules, il pourrait être judicieux de recouvrir votre table de papier journal.
C'est bientôt l'heure de la pause, se renseigne l'un de mes compagnons, un camionneur quinquagénaire, avec une ceinture lombaire par-dessus sa chemise et sa hanche abîmée. On était dans le même groupe les deux dernières fois aussi. Comme moi, il est forcé de participer à cette formation merdique en attendant la décision de NAV concernant sa demande de pension d'invalidité. Notre maton racle sa spatule contre le rebord de la marmite, la pose par terre, se redresse en serrant le bloc-notes qu'il a toujours sur lui.
Écoutez, on ne peut pas laisser de la cire liquéfiée sur une plaque de cuisson. C'est l'une des règles de base de la fabrication de bougies. De la stéarine tombant sur la plaque pourrait...
Il marque une pause en nous observant tous les trois d'un air grave.
Prendre feu.
Alors que j'envisage de plonger la tête dans la marmite, j'entends un bip aigu dans mon blouson à côté de la porte d'entrée.
Pas de téléphone pendant la fabrication des bougies.
C'est une urgence, dis-je en passant devant lui. Ça pourrait être ma sœur à Tromsø, et si c'est le cas, on est en panique totale. Je me hâte vers la partie vestiaire de la pièce, sors mon portable. En l'occurrence, c'est effectivement Lise.
« Torquille !»
hurle-t-elle dès que je plaque le téléphone contre mon oreille. Son souffle est entravé, plus court que d'habitude. Elle semble sur le point d'éclater en sanglots hystériques.
« Torquille, s'il te plaît, il faut que tu m'aides »
« Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Arvid ?» Le simple fait de prononcer le prénom du mari de ma sœur accélère mon pouls. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois ?
J'attrape ma veste, sors dans le vent d'été frisqué qui souffle de Ilveug.
Torquild,
sanglote Lise.
Torquild, je crois qu'il est mort.
Mort ? Je ne m'arrête pas avant d'être au milieu du parking partagé avec un centre d'accueil de jour. Qu'est-ce que tu entends par « mort », bordel ?
Il s'est mis dans une telle colère. Moi, je voulais juste qu'il me coupe une génoise en deux et puis...
Qu'est-ce que t'as fait, Lise ? Je plisse les paupières face au soleil brutal. Le vent chasse de la poussière et des déchets en plastique vers le centre de jour, devant lequel un minibus vient de se garer.
Je voulais juste qu'il m'aide.
Dis-moi d'abord ce que tu vois, tu veux bien ? Je m'assieds sur un banc à l'entrée du centre alors que le chauffeur du minibus installe une rampe pour fauteuil roulant derrière le véhicule.
Arvid est étendu sur le sol de la cuisine. Les bras en croix. La pelle à tarte est plantée dans sa poitrine. La génoise est toujours sur le plan de travail et...
De quel côté de la poitrine ? Lise pousse alors un petit cri.
Oh non !
Qu'est-ce qui se passe, Lise ? Dis-moi.
Il a bougé. Il...
J'entends une voix sifflante juste à côté d'elle, suivie d'une série de grognements prolongés, puis la respiration se fait plus forte, plus intense. Mon portable crépite. Lise chuchote.
Arvid, Arvid, ne sois pas fâché contre moi. Il ne répond pas,
m'annonce-t-elle en revenant au bout du fil.
Oh, qu'est-ce que je dois faire, Torkild ?
Boucle ta valise et va devant la maison. Je m'occupe du reste. En attendant sa réponse, j'observe les allées et venues du chauffeur qui emmène tous ses passagers en fauteuil roulant à leur accueil de jour.
Arvid,
finit-elle par articuler.
Il a besoin d'une ambulance.
Dépêche-toi, je vais lui en appeler une et toi je te commande un taxi. Je sais que dès qu'Arvid se réveillera, elle se jettera à son cou en le suppliant de lui pardonner, tout comme je sais qu'il la battra à mort si je ne parviens pas à la sortir de là avant.
Mais je vais aller où ?
Tu vas rentrer avec moi, Frangine, en Islande.
C'est papa ?
Murmure-t-elle. Oui, son cancer a récidivé. Chapitre 2. Le chauffeur du minibus a disparu dans le centre de jour avec ses derniers passagers. Dans le vent froid de juin qui traverse mes vêtements, je me repasse ma conversation téléphonique avec mon père, il y a quelques jours. Torkild ? Sa voix a été claire et forte, comme d'habitude.
C'est moi, ton père.
Qu'est-ce que tu veux ?
Parler, Torkild. Juste parler.
Parler de quoi ? Je m'étais mis à errer dans mon studio exigu, sans trouver d'endroit adapté où m'arrêter ou m'asseoir. Dans mon enfance, juste parler pouvait signifier n'importe quoi. De la crise de larmes spontanée, nous ne l'aimions pas comme nous aurions dû, au remords. Quelque action répréhensible de sa part engendrant un besoin d'être réconforté par sa progéniture.
Le feu va s'éteindre.
Quand il parle de lui-même et d'autres Islandais, mon père fait toujours référence au feu intérieur, comme si nous étions créés dans les profondeurs souterraines des rivières de lave et propulsés vers la surface, à travers la roche, le moment venu. Avant de rencontrer ma mère, quand il était encore étudiant, on l'a diagnostiqué bipolaire, et je pense que ce feu dont il parle est un effet secondaire de sa maladie, une façon de décrire ses mouvements intérieurs.
J'ai envie de te voir une dernière fois avant d'expirer.
Je suis occupé. Je m'étais arrêté devant la couverture que je garde suspendue devant la fenêtre. Dehors, la pluie avait repris.
Torkild, j'ai des ennuis,
a-t-il chuchoté.
De gros ennuis.
Tu t'es encore fait arrêter ? Mon père est biologiste marin de formation, mais il a trouvé sa vocation dans la guérilla militante avant ma naissance. Nous traînant derrière lui, ma mère, Lise et moi, il allait de fonderie en centrale électrique avec ses frères et sœurs en solidarité. Ils s'enchaînaient, hurlaient, pleuraient pour l'Islande. Finalement, ma mère a eu sa dose et elle nous a emmenés en Norvège. La dernière fois que j'ai vu mon père remonte à 25 ans, juste avant mon entrée à l'école de police. C'était aussi mon dernier séjour en Islande. Je prévoyais de ne plus jamais y retourner.